Nous vous présentons dans la série d'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Junier. Les conspirateurs, mise en scène, production de Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Ses cours et décide d'aller l'attendre à la sortie de son lycée à elle. Il connaît leur sortie du mardi. Il la voit sortir. Elle le voit surprise et va vers lui. Il se dit qu'elle est bien belle. Elle porte une jupe plissée rouge, un chemisier clair, crème et une veste en cuir marron. Une veste, pas un blouson en tout cas, et à la main un classeur noir. Bonjour Émile, ils s'embrassent. Tu es venu me voir? Oui, c'est au sujet de nos parents. Ah bon? J'ai envie de prendre une glace. On va au café de... Non. C'est-à-dire que moi, je ne peux... Je ne prends rien. Je suis à sec. Idiot, c'est moi qui la paye. Mais ne discute pas. Il y a des tas de garçons qui seraient fiers qu'une fille leur paye une glace.
Madame, s'il vous plaît.
Ils sont entrés dans un café en face du lycée. Jean Brasserie, restaurant chic. S'assoit à une table et commande deux glaces. Fleur à la fraîche et Émile à la pistache. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire de si important? Avant, hier au soir, je suis rentré un peu tard.
S'il vous plaît.
À quelle heure?
Un sandwich au gruyère.
Je sais pas vraiment. 3-4 heures.
Et une salade.
Tu as rencontré quelqu'un?
En crudité variée, oui. C'est bien.
Oh,
ça ira comme ça, monsieur.
Assez.
Et pour boire, bon,
mais
un café,
mes parents étaient furieux que je rentre si tard. Ils ne veulent plus.
Et vous m'amenez.
Vous voulez même que je sorte.
Vous pouvez m'amener le sandwich d'abord. Hein.
Alors je crois que leur ai dit que je sortais parce que,
quoi,
que lorsque tu me le demandais, ils ont trouvé bizarre. Toi aussi, tu as la permission de sortir si tard. J'ai l'impression que mon père va en parler au tien.
Écoute alors, devine.
Elle soupire et dit.
Devine qui est venu me voir ce matin.
Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'il sache la vérité. Marc et moi, nous sommes décidés de vivre ensemble. Ah, bon? On ne sont pas triste. On dirait que tu m'as perdu.
Oui, quelqu'un est vivre avec lui.
Non, mais c'est-à-dire... Sans toi,
je me demande si tu crois ce que tu
je ne pourrais plus sortir, tu comprends? Écoute, il faudra bien que tu prennes ton indépendance. Tu vis pas ta vie, tu vis celles qui ont décidé pour toi. Non, quitte-les et fais ta vie.
Comment tu vis complètement dans l'irréel.
Pas d'argent.
Comment veux-tu garder un homme s'il n'est pas avec toi?
Prends une chambre et travaille pour la payer. Avec le chômage qu'il y a, ce n'est pas évident de trouver du travail, surtout sans spécialité.
Crudité variée, c'est
je sais, mais essaie tout de même de t'en sortir.
Et pour boire un café,
ils sont si différents des autres.
On peut avoir de café, s'il vous plaît.
Émile. Oh, arrête.
Et vous m'amenez...
Tu te fais des idées. Allez, mange ta glace.
Elle va fondre. Je crois que monsieur peut attendre. Je suis pas seule.
Il lui demande.
Quoi, de toute façon.
Mais j'aimerais sortir. J'ai rendez-vous, je peux compter sur toi.
Tout ça, on apportera tout en même temps. Même
oui, bien sûr. Tu ne manques pas avec qui. Cela risquerait de te gêner.
Écoute alors, devine. Dis-moi. Devine qui est venue me voir ce matin à 7h.
À 7h? Ou chez toi?
Non. Je n'ai pas faim, t'en veux?
Émile attend Jérôme devant sa pâtisserie. À 17h, il le voit sortir de l'allée de son immeuble et aller vers lui. Il lui dit « Bonjour, ça va ?»« Oui. » Jérôme lui demande « On marche un peu ?»« Oui. » Jérôme lui dit « Tu comprends ma réaction de l'autre soir ? C'est parce que je ne supporte pas les PD. C'est physique, je n'y peux rien. » Remarque. Je n'ai rien contre eux et je ne veux pas qu'ils me touchent. Je t'aime bien. Je veux que l'on soit simplement amis. C'est tout. Émile est heureux et lui dit, c'est déjà beaucoup. sourient tous deux. Ils sont allés boire un verre ensemble et Émile l'a raccompagné à la gare. Avant qu'il ne remonte dans le compartiment, Jérôme lui dit « Si tu veux samedi, je t'invite chez moi. »« Oui, je veux bien, » dit Jérôme heureux. Et le samedi soir, sans rien demander à ses parents, il est sorti pour attendre Jérôme devant son magasin. Avant, il est allé voir Gérard et se sont amusés dans la cave. Émile s'est habitué à l'odeur de la chair de Gérard. Il ne peut s'en passer. Et Gérard est gentil, un peu enfant, câlin, mais un très brave garçon. Puis, il est parti pour Vienne avec Jérôme. Vienne, ville triste, morte, sans intérêt. On a tout juste envie, une fois d'y être, d'y repartir. En sortant de la gare, il l'a guidé dans un dédale de vieilles rues, étroites, sales, sombres. Ils sont entrés dans un vieil immeuble de 3 étages, sans style. Allée étroite, noire, au mur sombre, escalier de pierre humide. Au premier, Jérôme ouvre une porte. Entre, il entre. Jérôme éclaire et ferme la porte. Mini couloir avec une porte vitrée en face de la porte d'entrée et 2 autres portes de chaque côté. Tapisserie à fleurs 1950 noircie, plafond jauni avec sur un plafonnier une ampoule électrique. Sur le sol, contre le mur, des cartons et valises en carton marron. Jérôme dit: ne fais pas attention, j'ai pas le temps de faire le ménage. Viens, on va dans la pièce. Et il se dirige vers une porte vitrée pour l'ouvrir. Même tapisserie au mur et l'ampoule au plafond. Un lit à 2 places, défait. Une armoire 1950, une table de cuisine en formica blanc, 4 chaises en bois, un coin cuisine. Il y a du lino à terre et toujours des cartons contre le mur. Assieds-toi, Émile va s'asseoir sur une chaise à table. Jérôme en face de lui. Voilà, Tu sais où j'habite. C'est pas extra, mais j'ai rien trouvé d'autre. Remarque, je cherche, mais à Lyon. Au moins, tu vis seul, toi, dit Émile. Mais avant, je vivais avec une copine, dit Jérôme. Elle t'a quitté. Oui, tu sais, les filles, maintenant, pour un oui, pour un non. J'en ai trouvé une autre, mais on ne vit pas ensemble. C'est mieux, ça évite les histoires. Et toi? Moi, rien, avec la famille que j'ai, dit Émile. Tu vis tout seul? Émile lui répond, mais sans un sou. Sans un sou, répète Jérôme. Oui, ça l'argent. Tiens, pour nous détendre, je vais te faire écouter quelques disques. Et il se lève. À terre se trouve une mini chaîne avec à côté un carton plein de CD. Déjeuner, sa mère lui dit « Nous t'avons dit de ne pas passer les nuits dehors. Tu es encore rentré à 4 heures. Cela ne peut plus durer. Tu as une maîtresse ?»« Non. » »« Alors, que fais-tu dehors ?»« J'ai passé la nuit chez un ami. » Son père tape du poing et dit « Tu nous prends, ta mère et moi, pour des imbéciles ?» Passer la nuit chez un ami? Et quoi encore? Dis-nous tout simplement que tu as une maîtresse. Émile se sent agacé. Il en a marre d'être traité comme un gamin. Il se lève furieux. Pose sa serviette sur la table et crie. Je n'étais pas chez un ami. Je n'ai pas de maîtresse. Et si vous voulez tout savoir, je n'aime pas les femmes. Je suis comme je suis. Je veux que l'on me respecte ce que je suis. Je me suis déjà suffisamment sacrifié pour mes études pour que cela doive vous suffire. Et je veux sortir le soir quand j'en ai envie. Je ne suis plus un gosse. Et il quitte la pièce. Au lycée en se disant qu'il ne devait pas se faire du souci à savoir ce que penseraient ses parents de ce qu'il avait dit. Il n'a jamais perçu ce que pensaient ses parents. Ont-ils pris au sérieux ce qu'il avait dit, qu'il était pédé, ou ont-ils pensé qu'il avait dit cela sous l'effet de la colère? Il ne l'a jamais su. Puis il s'en fiche. Lorsqu'il est rentré le soir, tout s'est passé comme d'habitude. Et désormais, lorsqu'il va et sort, on ne lui fait plus de réflexion. temps passe. Il continue à voir Gérard et Jérôme. Se sent bien avec eux. Gérard lui permet d'assouvir ses désirs sexuels, Jérôme de se détendre. Un jour, il a appris que Flore s'était fiancée, à la grande déception de ses parents. Il a réussi son bac. Il est allongé sur son lit et réfléchit sur ce qu'il doit faire maintenant, tout en touchant sa croix. Je veux être digne de nous deux, Patrick. Je deviendrai écrivain. Je veux m'inscrire à l'université pour faire littérature. Je te le promets. Pour toi. Assis au salon, ses parents et lui, son père lui demande « Maintenant que tu as fini le lycée, tu vas essayer d'entrer dans une école d'ingénieur chimiste. Ça te sera facile, vu toutes les bonnes notes que tu as eues en maths et sciences. » « Non, père, j'aimerais mieux faire littérature. » «
Mais tu ne pourras pas me remplacer dans l'entreprise. »
« Je n'ai pas envie de vous remplacer. » La mère le regarde du coin de l'œil. Son père tape du poing sur les écoudoirs du fauteuil et se lève pour faire nerveusement les 100 pas.
« Bon, c'est bien. Tu nous as déjà fait une crise parce que tu voulais sortir comme tu voulais. » Maintenant, tu continues tes caprices d'adolescent retardé avec le choix de ton avenir. Tu n'es plus un gamin, tu sais. Et on parle de choses sérieuses. C'est de ton avenir, tu comprends? Alors, que veux-tu faire plus tard?
Je veux devenir écrivain.
Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça?
Écrire des romans.
C'est ça, et ça rapporte ça. Et c'est avec ça que tu vas faire tourner l'entreprise?
Non.
Alors, comment elle va tourner cette entreprise? Qui va s'en occuper lorsque je ne serai plus là? Et puis même, tu comptes me faire travailler jusqu'à ma mort pour que tu puisses écrire tranquillement dans ton coin, dans ta chambre, et sortir comme tu l'entends le soir, hein? C'est cela l'avenir que tu crois, que tu te crois?
Mais non, vous mélangez tout. Je ne dis pas que je veux vivre à vos crochets, mais je veux être écrivain, voilà.
Voilà, voilà. Pauvre égoïste, on t'a élevé, nourri, jusqu'à ce jour. Et tu veux, en guise de remerciement, hein, ruiner notre vieillesse, car si tu ne prends pas ma succession, c'est notre faillite. Je veux te dire, moi, pourquoi tu ne veux pas me succéder. C'est parce que tu es un feignant. Oui, un feignant.
Sa mère lui dit, à notre époque, tu sais, c'est un privilège. Ton avenir est tout tracé. Et un bel avenir. Il y a beaucoup qui aimeraient être à ta place. Amuse-toi à écrire le dimanche si tu veux, mais travaille sérieusement la semaine. Son père lui dit,
si tu refuses, je te coupe les vivres.
Émile tente une dernière tentative. Roland pourrait peut-être s'occuper de l'entreprise. Le père hoche les épaules.
Ton frère est un instable. Il est en retard dans ses études. Ils seront toujours obligés de l'avoir sur le dos et de surveiller pour qu'il ne fasse pas de bêtises. Tu comprends? Qu'il ne fasse pas de bêtises.
Émile se dit qu'il ne peut rien faire, qu'ils sont les plus forts. Il sait qu'un écrivain ne peut gagner sa vie. Il faut qu'il ait en plus et qu'il devienne au moins professeur de lettres, quelque chose comme ça. Mais si ses parents ne l'aident pas pour ses études, il ne peut pas. Il ne se sent suffisamment pas fort, assez fort pour quitter la famille et trouver du travail en plus de l'université. Ils sont les plus forts. C'est eux qui détiennent le pouvoir. Je n'ai plus qu'à obéir. Plus tard peut-être, Patrick. Plus tard. Pardonne-moi, Patrick. Plus tard. Plus tard. J'accepte de faire des études d'ingénieur chimiste. J'écrirai durant mes heures de loisir. Son père s'arrête de marcher et lui dit
« C'est bien mon fils, je savais que tu étais sérieux et je sais que tu vas faire de bonnes études. Tu verras, tu seras heureux plus tard. Tiens, je vais te faire confiance pour le sérieux que tu vas mettre dans tes études. » Je vais aussi te faire confiance pour tes sorties et relations.
Émile s'est inscrit à une école d'ingénieurs chimistes et décide de travailler dur. Mais en même temps, il continue à rêver pour être digne de la mémoire de Patrick. Il peut sortir comme il veut, il ne lui pose plus de questions, voit une fois par semaine Gérard et Jérôme. Avec Jérôme, ils mangent ensemble et écoutent de la musique. Émile n'a plus du tout de désir pour lui, il est devenu un peu son frère avec qui l'on peut parler franchement et se détendre. Il sera incapable du moindre geste ambigu avec lui. Ce n'est pas qu'il le trouve pas beau, mais il est d'une beauté sans désir, et c'est très bien ainsi. Gérard, ce n'est pas pareil. Lui, c'est comme un petit chaton que l'on aime caresser. J'oserais même dire qu'il est fait pour cela. Et si l'on n'agissait pas de cette manière avec lui, il ne comprendrait pas et serait très triste, car il veut qu'on l'aime ainsi, physiquement. Est devenue une chose normale et très simple. Le lieu ne surprend plus Émile. Il ne fait même plus attention aux odeurs. Après, ils vont s'asseoir gentiment sur les escaliers à parler d'avenir et rêver. Gérard rêve de partir sur un bateau, d'aller dans les pays chauds, là où il n'y a pas de neige, car il en a horreur. Émile lui dit qu'il aimerait aller à Paris pour rencontrer des écrivains, artistes de toutes sortes, nous ne reverrons plus, dit Gérard. Émile l'embrasse sur la joue et lui dit, bien sûr que oui, nous nous reverrons. Tout cela, ce ne sont que des rêves, tu sais, des rêves de jeunes gens. C'est sûrement mieux ainsi. Comme ça, nous resterons toujours ensemble. Nous nous verrons même lorsque nous serons vieux. Oui, bien sûr. Mais tu ne me désireras plus. Je ne serai trop moche. Ne dis pas cela. Je désirerai toujours. Peut-être d'une autre façon, dit Émile. Comment ? D'une façon plus forte, tendre, des yeux pleins de souvenirs. Mais ne te fais pas de soucis. Quelle que soit la façon, je désirerai toujours te voir. Tu parles bien. On voit que tu vas être romancier, dit Gérard. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les Conspirateurs. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.